Libres échanges.
Animé par Olivier Lostis
et Gabriel Seban.
Libres échanges au-delà des frontières de chacun.
Pour interroger l'évolution de notre société, des points de vue, des interrogations pour un vivre ensemble autrement.
Le monde du travail, un univers à part entière duquel on ne souhaite pas être exclu pour des raisons évidentes de subsistance. Mais pas que cela. Travailler, un concept quelquefois ambigu, paramétré par des conditions d'existence tant intérieures qu'extérieures à soi, qui nous amène à réfléchir sur son aspect libérateur, mais aussi aliénant. Libres échanges vous propose aujourd'hui les conditions de travail dans les entreprises. La souffrance au travail.
Avec nous pour en parler aujourd'hui, Véronique Roll, médecin. Médecin qui a notamment pratiqué un certain nombre d'années à l'étranger, en Afrique notamment, à la fois sur des terrains très compliqués comme l'Angola pendant la guérilla et également au Congo. Dominique Jugiot, avocat au barreau de Chartres.
Bonjour.
Et par ailleurs, enseignant à Poitiers dans le domaine de la protection sociale et du droit social.
Très bien.
Dominique Desmichel, psychanalyste, spécialiste des questions et surtout consultant en matière de douleur et qui a eu à connaître des situations de douleur chronique de salariés. Alors, juste avant peut-être d'enclencher les débats, on va vous proposer dans le cours de ces émissions quelques extraits d'un entretien que Gabriel a mené avec quelqu'un qui voulait témoigner de sa situation au travail. Premier petit extrait sur la définition, une définition possible du travail.
En fait, le monde du travail, ça devient de plus en plus... c'est plus le travail qu'on a, enfin c'est pas du travail quoi, ça vient plus du travail. Est-ce qu'on en revient à la première définition qui était très pallium, instrument de torture? Et moi je dis non, on doit pas avoir cette définition, prendre cette définition de très pallium avec le travail. Le travail c'est important, c'est la première marche sociale pour toute personne. Il faut le défendre le travail.
Alors voilà un premier mot qui souligne tout de suite l'ambivalence du mot travail. Alors je fais une petite correction, un petit ajout. J'ai oublié de préciser que Véronique Roll était d'abord et avant tout médecin du travail. Donc d'ailleurs, je vais vous donner la parole tout de suite sur cette question du travail, de l'ambivalence, où à la fois on voit bien que notre interviewé parle de la souffrance. Il évoque un instrument de torture. Et également la possibilité de réalisation. Alors déjà, pour vous, médecin du travail, lorsque vous rencontrez les salariés, et puis par définition, vous rencontrez tous les salariés périodiquement, voilà, quelle peut être votre définition, ce que vous voulez retenir du travail justement sur ce plan?
Ce qui est important, et la question que je pose toujours aux salariés quand je les reçois, c'est que je vais essayer de comprendre quel est le sens de leur travail, quel sens ils donnent à leur travail et quel est la part d'épanouissement, puisque pour moi le travail est fait pour s'épanouir. Donc à travers cette visite médicale, cet entretien qu'on a avec le salarié, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue dans son travail, quelle part ça prend dans sa vie. Est-ce que c'est un travail où il s'épanouit, il peut développer ses qualités, ses compétences? Vous avez d'autres personnes pour qui c'est clairement un travail alimentaire parce qu'elles ont d'autres passions ailleurs. Voilà, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait une passion quelque part.
Voilà. Mais si je peux rebondir là-dessus, il y a une réalité entre et un monde entre le fait d'exercer un savoir-faire et le fait de le pratiquer dans des conditions je dirais, de confort peut-être, mais de confort minimum en tout cas, pour qu'il soit épanouissant. Et c'est justement ce qui génère les possibles conflits entre l'employeur et l'employé, et là où, sans doute, vous avez matière à intervenir.
Je voudrais donc rebondir à chaque fois, sur ce que vous venez de dire, mais aussi sur le propos de Mme Roll, puisque finalement, on nous a parlé de la notion de trépalium, une souffrance liée à la notion même de travail. Mais finalement, il faut essayer de transcender cette notion et en faire une reconnaissance. Trouver un épanouissement. Le mot aussi a été donné. Il faut trouver à la fois une triple dimension à cette reconnaissance, une triple dimension à cette reconnaissance. Une dimension individuelle, parce que après tout, lorsqu'on va travailler, on essaye de se réaliser soi-même. Par rapport à la fiche de poste qu'on nous donne. Donc on veut aussi véritablement s'épanouir et avoir une satisfaction, même de façon très égoïste, trouver sa propre satisfaction au travail. Après, il y a une deuxième dimension, c'est une dimension familiale, puisque si on travaille, c'est aussi pour subvenir aux besoins de nos familles, mais il y a aussi une troisième dimension, qui est une dimension sociale, puisque à partir du moment où vous exercez un travail, à ce moment-là, on vous donne une reconnaissance sociale, un statut dans la société, beaucoup plus intéressant.
Alors je rebondis sur ce que vous venez de dire, et notamment sur le terme de poste. Le principe est que une définition de poste ne correspond pas toujours à la mission qui est à charge et en responsabilité de celui qui l'exerce. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a matière à une distorsion possible entre la notion de définition de poste et la notion de mission, c'est-à-dire de pratique du travail au quotidien ?
Après, ce qui est important, alors les fiches de poste dans les entreprises, pour moi, c'est très important, puisque quand on a, l'absence de fiches est une cause de risques psychosociaux. Puisque quand c'est flou, quand le salarié ne sait pas finalement quel est son contrat, qu'est-ce qu'on attend de lui, c'est compliqué. Bon, après, ce qui est aussi important par rapport à la fiche de poste, c'est que le salarié ait une marge de manœuvre. Ça, c'est très important pour qu'il puisse exercer sa créativité. Et qui puisse avoir l'impression d'apporter quelque chose au-delà d'un normal, de quelque chose de très statué, et de pouvoir apporter ce qu'il est, sa personne, et donc de pouvoir participer à ce qu'on appelle le bien commun, l'amélioration du bien commun. Ça, c'est très important, cette marge de manœuvre pour les salariés, où ils ont pas que des objectifs, il faut faire ça. Par exemple, je viens de faire une étude là, dans une entreprise où tout était tellement cadré, mais y compris, il fallait mettre le stylo là et les papiers là, que les salariés finalement étaient en difficulté par rapport à ça, parce que finalement elles disaient on a notre savoir-faire et on peut pas l'exprimer.
Je crois que Monsieur Juju, vous vouliez dire quelque chose.
Oui, toujours sur cette fiche de poste, parce qu'elle me paraît essentielle, parce que c'est d'abord un acte d'adhésion du salarié lors de son embauche, lorsqu'il il est recruté, on présente la fiche de poste. Donc véritablement, lorsqu'elle signe son contrat de travail, c'est aussi une adhésion à un poste avec les missions qui sont définies, en espérant bien sûr que ces missions soient définies de façon assez exhaustive. Mais donc, c'est d'abord une première démarche pour le salarié d'adhésion. Et puis, au moment de l'exécution du contrat de travail, le salarié peut aussi s'apercevoir que au fil des mois, au fil des années, on va au-delà de la fiche de poste ou on s'écarte de la fiche de poste. Mais pour le salarié, c'est aussi une façon de dire ou de revendiquer ou de revenir sur cette fiche de poste et de dire à l'employeur, mais finalement, regardez, lorsque j'ai été recruté, c'était pour cette mission-là, et j'aimerais revenir sur cette sur les missions qui m'avaient été confiées initialement. Donc c'est aussi un moyen pour le salarié de revendiquer les missions initialement accordées et pour lesquelles il avait donné son entière adhésion.
Je pense que l'un comme l'autre, vous faites là une référence explicite à la prescription du travail, c'est-à-dire ce qui est prévu, ce qui est contractualisé, ce qui est précisé. C'est probablement pas la seule chose qu'on puisse trouver dans le travail. Je donnerai la parole au psychanalyste Dominique Desmichel juste après, peut-être encore un extrait qui me paraît justement évoquer cette question.
J'ai un contrat de travail, j'ai tant d'heures à faire, donc je vais voir mon chef qui me donne une liste de priorité. Après, une fois que j'ai ma liste de priorité, je me sens mieux à l'arrière. Je sais comme ça ce que j'ai à faire.
Qu'est-ce qu'on vous reprochait dans les évaluations qu'on vous produisait?
T'es pas dans ta mission, voilà. Et puis, mais alors moi je lui dis, mais moi j'ai pas de mission. Moi je lui dis, je vois pas de quoi tu me parles. Moi je parle de travail. Moi ce que j'ai à faire tous les jours, c'est un travail de balisage. Ce que mon collègue a à faire au SAV, c'est un travail de SAV. Parce que en réception, bah il réceptionne. Enfin c'est un travail de réception. Donc et plus en plus effectivement c'est ça. C'est, on veut nous montrer des missions. Chacun aurait des missions. Et c'est trop abstrait pour un employé. Enfin, pour moi, c'est ce qui est important, c'est le travail.
Alors, Dominique Desmichel.
C'est troublant, je trouve, ce témoignage. Hein. C'est troublant parce que moi, j'ai l'impression d'entendre qu'il y a une vraie plainte dans ce que raconte cet homme. Hein. Et en même temps, j'ai envie de dire, mais bon, pourtant, moi, la notion de mission, ça me parlerait, au fond, comme si je me disais, ben oui, vous êtes envoyé quelque part pour une mission, c'est-à-dire un contenu. Alors voilà, mais peut-être là, vous deux, vous aurez des choses à dire là-dessus. Moi, ce qui me semblait, c'était que cet homme, dans son témoignage, il disait au fond que ce qu'il faisait, ça n'avait pas de sens. Mais je ne savais pas s'il revendiquait que ça n'ait pas de sens pour être juste dans l'objet du travail ou si au fond, il se désolait que ça n'ait pas de sens. Voilà, moi, j'aurais envie de lui dire, mais qu'est-ce qui vous dérangerait, par exemple, dans le fait qu'on ne vous envoie pas en mission? Et derrière, il y avait deux choses que j'avais envie de dire. La première, c'est la question du sens que tous les deux, là, Véronique Roll et Dominique Jugiot, vous avez abordé. La question du sens, toujours dans cette notion de signification. Quelle signification ça a pour moi, mon travail? Dans le sens d'une direction, c'est-à-dire il faut qu'au fil de mon parcours professionnel, il y ait quelque chose qui avance, qui évolue, qui bouge, etc. Ou qui bouge pas, mais ça corresponde à moi-même. Et puis, dans une dimension aussi, troisième contenu du mot sens, c'est-à-dire de la sensorialité, c'est-à-dire il faut que ça soit compatible avec ma vie, celle de mon corps, celle de mon esprit, enfin quelque chose de très concret. Mais il me semblait que derrière, alors j'avais envie de réintroduire ce mot-là aussi, il faut qu'il y ait un minimum d'enthousiasme, parce que c'est l'enthousiasme dans le travail qui permet d'accepter, là j'allais dire, la part incontournable de contrainte qu'il y a au fond dans tout travail. S'il y a de l'enthousiasme, on peut rappeler presque l'étymologie de l'enthousiasme, hein, il y a presque du divin là qui est convoqué hein, dedans. En tout cas, il y a du sens, ça permet de pouvoir tenir.
Alors au risque d'être un petit peu l'empêcheur de tourner en rond, Je me projette un petit peu et je me dis que, quelquefois, la fonctionnalité même du travail exige de la personne une répétitivité, une présence, je dirais, quasi automatique à certains actes, à certains gestes, à certains réflexes. Cette vision me frustre un petit peu de l'enthousiasme que l'on pourrait attendre d'un travail qui, effectivement, meuble l'espace et structure l'espace du temps dont on dispose. Est-ce que, finalement, derrière cet enthousiasme, derrière ces échecs à la bonne volonté, il n'y a pas des problèmes de reconnaissance qui se pointe. Est-ce que finalement travailler n'est pas une manière de se payer affectivement d'une reconnaissance d'utilité.
Ben ça, je pense que ce qui donne du sens au travail, c'est bien le sentiment d'être utile. Donc ça, c'est le cœur du travail, je dirais. Ce qui est très, on parle beaucoup aujourd'hui de qualité de vie au travail, bien-être au travail. Bon, moi, je dis toujours aux employeurs et à l'encadrement, je dis, si vous avez la qualité de vie au travail, la production, vous l'avez. Et ce qui est très important, c'est aussi, en parlant d'enthousiasme, c'est le collectif de travail. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les collectifs de travail se sont un peu étiolés. Enfin, moi, ça a été flagrant avec la mise en place des 35 heures. On a bien senti que tous ces espaces informels qu'il y avait, d'échanges, de partage des savoir-faire entre les uns et les autres, se sont un petit peu étiolés parce que ben, on a fait la chasse au temps mort. Ça a été un petit peu ça, hein, l'effet pervers des 35 heures. Hein.
Sur cette question de l'organisation du travail, peut-être que Dominique Jugeot aura des choses à dire. Je voudrais juste qu'on écoute un petit extrait à nouveau qui résonne très précisément avec ce que vous venez de dire, d'accord, Madame Roll, je pense, sur la question de l'urgence au travail.
Mais on se rend compte que c'est voulu, en fait, par le management. Il ne faut pas que tu aies une vision à long terme. Il faut que tu sois au jour le jour, seul à ton bureau. Une volonté, en fait, d'un management d'isoler les gens, quoi. Il y a toujours l'employeur se sent obligé de créer des urgences qu'en fait qui soient artificielles, quoi. Faut que tu sois dans l'urgence.
Alors Dominique Jugeot, est-ce que ces choses-là vous paraissent hors contrat de travail, par exemple? Parce que très manifestement, la personne qui parle là évoque une souffrance dans la précipitation, dans l'impossibilité de réfléchir, de prendre du recul, et puis dans une pression permanente maintenue par sa hiérarchie.
Alors, et c'est vrai que lorsqu'on parle de travail et de travailler dans l'urgence, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de mal à investir le travail et d'essayer de définir le contenu. Mais là aussi, je voudrais revenir donc sur le sens du travail, donc, et l'importance pour chaque salarié de trouver et de donner du sens au travail, puisque le sens du travail, on ne peut pas le définir de la même façon selon le secteur d'activité. Tout à l'heure, l'un d'entre nous a parlé d'automaticité dans les actes que l'on fait tous les jours. Lorsqu'on voit, on prend son poste de travail, finalement, on répète les mêmes gestes, on répète les mêmes choses. Et peut-être qu'on y trouve là un moyen d'aliénation de soi. Mais il faudrait aussi essayer de trouver des solutions à ça. C'est vrai que on ne peut pas changer de poste tous les jours, on ne peut pas changer de mission tous les jours, mais pour autant, il faut que l'employeur essaye de donner des perspectives nouvelles, alors à court terme, à moyen terme, à long terme, aux salariés. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'employeur doit donner aussi une capacité aux salariés de dire que finalement, dans un an, il aura acquis des compétences nouvelles, propices à de nouvelles missions ou à de nouveaux postes. Il faut aussi dire aux salariés que, en fonction du sens qu'il aura donné à son travail, il sera à même d'évoluer au sein de la hiérarchie. C'est aussi ça. Mmh. C'est d'un côté, oui, bien sûr, je dois prendre conscience que tous les jours, je répéterai peut-être les mêmes actes, je répéterai les mêmes choses. Mais par contre, dans un terme, dans une échéance plus ou moins longue, je serai à même d'exceller dans d'autres postes, dans d'autres missions qui seront susceptibles de me réaliser.
Alors, oui. Il n'y a pas juste un tout petit obstacle à ça en fonction de l'entreprise et des possibilités que cette entreprise a elle-même. C'est-à-dire que notamment là, sur un point comme ça, on imagine, dans ce que vous dites, exclusivement des entreprises de taille relativement importante, c'est-à-dire où il peut y avoir une mobilité interne, comme on dit, enfin, des choses comme ça. Dans les toutes petites entreprises, c'est beaucoup plus compliqué.
C'est véritablement l'enjeu et même les limites à cet exercice-là, puisque à partir du moment où on est dans, ou bien dans une grande entreprise, mais très hiérarchisée, où il est très difficile d'occuper un poste supérieur promis à un autre, donc là encore, voilà le premier, la première limite de l'exercice. Dans une grande entreprise, mais de la même façon aussi, c'est y a aussi les mêmes limites, mais dans les très petites entreprises où là, finalement, dans une très petite entreprise où il y a un seul salarié, à ce moment-là, quelle est l'évolution possible ? Là encore, mais à ce moment-là, c'est aussi l'associé, mais là encore, c'est très facile de le dire ici à ce micro, c'est très difficile de le concrétiser au jour le jour dans ces petites entreprises, mais c'est aussi lui donner la possibilité de prendre d'initiatives, notamment au regard de la clientèle, ou échanger aussi avec son employeur pour savoir s'il y a des niches de marché à aller chercher. Parce que après tout, là on fait aussi l'hypothèse que l'entreprise est figée. Mais finalement, l'entreprise aussi n'est pas figée. Finalement, une entreprise lambda peut avoir une niche de marché, mais que finalement, si le salarié a de très bonnes idées et qu'il les développe auprès de son employeur, on peut très bien aussi développer de nouveaux débouchés à cette entreprise.
Alors, oh, oui. Madame Roll, je pense que vous recevez des salariés d'entreprises de toutes les tailles. Donc justement, quel est votre constat?
Moi, je suis vraiment très contente de vous entendre dire ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense que c'est là que les services ressources humaines ont un rôle très important sur le parcours professionnel du salarié et savoir détecter où est-ce qu'il va s'épanouir, sur quoi il veut partir. Et moi, j'avais lu le livre de Xavier Grenet, Joie et tourment d'un RH, qui, moi, m'a beaucoup appris sur les possibilités des services ressources humaines. Et dans les entreprises, les grandes entreprises où j'interviens, moi, j'essaie toujours de remettre les services ressources humaines au cœur de l'entreprise. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment très, très important. Et aujourd'hui, avec le droit à formation des salariés, on peut comme ça faire évoluer. Et si vous voulez, je peux citer un exemple.
On va revenir aux ressources humaines. Je voudrais qu'on épuise un petit peu ce sujet qui est très, très important pour moi. C'est celui, finalement, de l'entreprise figée et de la relative possibilité de démotivation à partir de cela. On est en train de se poser la question de la qualité du management. Et à travers la qualité du management, celle de l'accompagnement pédagogique vers une évolution. Alors, pas forcément soldé par une reconnaissance financière, mais soldé par une reconnaissance de relations caractérisées. On pourra s'attarder là-dessus éventuellement. Mais ce que je pense, c'est que dans une petite entreprise, la personne qui est employée a une distance hiérarchique qui est, même si elle est effective, qui est plus proche de son patron, et notamment par rapport à un enjeu majeur, c'est celui de la proximité de la décision. Je crois que dans... j'en prends mon exemple personnel dans ma carrière professionnelle. Je pense que ce qui m'a vraiment démotivé à certains moments, c'est l'impression d'être agi. C'est-à-dire cette usure que finalement, quelles que soient les choses que je puisse faire, proposer, apporter, il n'y ait pas de retour d'information et encore moins de reconnaissance de la part de celui finalement qui est pour l'entreprise finalement est personnalisée par celui qui la dirige. On travaille dans une entreprise, mais cette entreprise elle est menée par un homme entouré possiblement par une équipe qui le soutient, mais on travaille pour avoir une reconnaissance d'une certaine initiative et d'une certaine responsabilité. si on perd cette impression, on devient agi. Et quand on devient agi, en tout cas en ce qui m'a concerné, la seule envie qui m'est restée, c'est celle de fuir, et le plus loin possible.
Alors je vais juste indiquer à nos auditeurs que Gabriel est normalement animateur, mais il est aussi sociologue de l'entreprise et a aussi une longue expérience de l'entreprise, et c'est pourquoi là, il vient de parler aussi en tant que spécialiste de la question. Je vous donne tout de suite la parole, Monsieur Jugio, mais je voudrais qu'on écoute un tout petit extrait à nouveau sur la question du travail et peut-être même d'une forme, pourquoi pas, mythique de travail. Enfin, on va écouter.
À vous écouter, j'ai eu l'impression, durant tout cet échange, que finalement, le travail, c'était l'élément central de votre vie.
Parce que c'est l'élément central déjà de tout le monde. C'est la première marche, je crois que c'est ce que je disais au début, c'est la première marche sociale pour quelqu'un. C'est son travail. Pas son job. Faut pas que ce soit un job. Que ce soit un vrai travail, dans le sens ouvrage ou œuvre. Faut peut-être plus retendre vers ça, parce que ce qu'était le travail à la base, quoi. Et pas un instrument de torture.
Alors, Dominique Jugio, donc entre ces deux interventions qui ont précédé, donc sur la question du travail, la question du job, je précise juste que dans cet entretien, job signifiait l'activité très peu intéressante qui n'a pour objet que de rémunérer la personne. Hein. Là, il place le travail aussi ailleurs. Il parlait de l'instrument de souffrance tout à l'heure. Là, il s'agit au contraire de l'œuvre, le travail comme artiste.
Je reviens sur l'expression on devient agi. Il y a ce risque d'être objet d'un travail.
Le job.
Le job.
Objet, ouais. Job, on a
alors,
les mêmes lettres.
Je comprends qu'on puisse dépasser ce job. Dans une relation de travail individuelle, très personnelle, personnalisée, entre le salarié et l'employeur. Mais donc dans des petites entreprises, c'est peut-être plus facile, encore que, on vient d'en parler tout à l'heure. Mais par contre, de la même façon, est-ce qu'on devient plus objet de travail dans les grandes entreprises, à partir du moment où on est noyé par une hiérarchie, par des mécanismes ou des collègues qui ne vous laissent pas d'initiative. Je pense que là, véritablement, il n'y a pas de solution précise, mais par contre, le droit a à sa disposition un certain nombre d'instruments. Alors comme tout instrument, si on les utilise correctement, c'est très bien. Si on ne sait pas les utiliser, ma foi, ça ne sert pas à grand-chose. Je voudrais donc évoquer un instrument qui me paraît important. Alors bien sûr, ce sont des entreprises de taille relativement importante qui l'utilisent. C'est ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des compétences. Et véritablement... si cet instrument est correctement mis en place, à ce moment-là, le salarié n'est plus un agi, il est aussi un agissant, de la même façon qu'il y a une interaction, il y a déjà un dialogue fait, dans le cadre de cet instrument, entre le désir du salarié de rester dans l'entreprise, le désir qu'a le salarié de donner du sens à son travail, mais il y a aussi, de l'autre côté, l'employeur qui doit aussi faire des propositions vers son salarié ou ses salariés pour qu'il trouve une écoute satisfaisante par rapport au désir évoqué. Donc là encore, un lien direct entre le salarié et l'employeur pour que chacun puisse s'écouter, écouter leur désir et leurs besoins, c'est une chose, mais on le retrouve aussi dans des entreprises beaucoup plus importantes avec des instruments tels que je viens de parler. Et puis de la même façon, il existe aussi un autre instrument que j'aurais juste évoqué aussi, c'est l'évaluation du salarié. Régulièrement, le salarié est évalué. C'est à ce moment-là, alors bien sûr, ça peut être mal vécu comme une contrainte, mais ça peut être aussi vécu très positivement à partir du moment où le salarié est libre d'exprimer à la fois ses aspects positifs et négatifs vis-à-vis du poste qu'il occupe actuellement, mais aussi vis-à-vis des postes qu'il voudrait aussi occuper par l'avenir. Voilà.
Alors au passage, le chef d'entreprise n'est jamais évalué. Pourtant, c'est un travailleur comme chacun. Donc, il y a cette aussi inégalité de principe qui se trouve dans le fait de pouvoir être au balcon d'une évaluation portant sur soi, sans être dans le recours de pouvoir interroger, si ce n'est évaluer, les actes et les gestions, au sens large du terme, de celui qui nous dirige.
Véritablement, je mettrais beaucoup de bémols à ce que vous venez de dire, puisqu'en fait, ça tient à la culture juridique. Mais sur plusieurs siècles, puisque notre monde juridique n'est pas du tout le même que le monde du travail allemand, où là on a mis en place des mécanismes de co-gestion, où là l'employeur, eh bien, là aussi on l'évalue. Nous, en France, on a mis en place cette culture où le chef d'entreprise est au sommet et il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Véritablement, donc il y a une culture juridique très ancrée sur ce point-là. Après, ça sont des évolutions qu'il faudrait mettre en avant sur plusieurs siècles, mais il faut aussi dire que cette culture juridique initiale a évolué aussi et continue d'évoluer, puisqu'il existe aussi donc, aujourd'hui au sein des entreprises des contre-pouvoirs. Alors, on en parlera un peu plus tard, mais il existe des contre-pouvoirs au sein des entreprises, mais aussi il y a aussi une évaluation du chef d'entreprise par rapport au conseil d'administration. Là aussi, les conseils d'administration sont là aussi pour évaluer les résultats, alors résultats économiques ou non économiques, de l'employeur.
C'est un sujet, je vous donne la parole tout de suite, madame. Je voudrais juste recentrer deux choses parce qu'il y a plusieurs sujets en même temps. Alors, on voudrait qu'on revienne sur le sujet des ressources humaines, qu'on reparle un petit peu de l'objet et ensuite qu'on reparle des questions de pouvoir parce qu'avec un extrait justement qu'on écoutera après l'intervention peut-être de madame Roll et Dominique Desmichel successivement sur les ressources humaines, et en précisant quand même les ressources humaines, c'est un terme qui est assez intéressant, qui rejoint la question pourquoi pas de l'objet parce que. Ce sont des ressources. Des ressources, ce sont des objets dont on parle aussi. Et donc, le rôle à la fois central de ce qu'on appelle les ressources humaines, avec tout ce que ça peut être de problématique, peut-être, Véronique Roll.
Pour moi, les ressources humaines doivent avoir à cœur le désir et le parcours professionnel du salarié. Alors, je reviens juste sur l'entretien d'évaluation, qui effectivement est un point très important dans les entreprises et pour faire ces points d'évolution de carrière et tout ça. Mais le problème, c'est que très souvent, c'est mal perçu, qui sont sanctionnés par a fait ses objectifs, les a pas fait. Souvent, vous avez un salarié qui s'est beaucoup investi, puis il s'entend dire, ben non, j'ai pas fait mes objectifs. Donc, il y a peut-être des choses à revoir aussi dans cet entretien individuel. Alors moi, j'emmène des entretiens, puisqu'aujourd'hui, le médecin du travail est coordonnateur d'une équipe santé-travail. Donc on fait des entretiens d'évaluation. Mais moi, je le vis comme, voilà, on fait le point, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pas une question de critiquer, c'est plutôt une question de voir, eh ben, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre fonctionnement. Voilà, donc ça, c'est l'idéal, entre guillemets, mais malheureusement, c'est pas toujours vécu comme ça dans les entreprises. Et l'autre chose que je trouve un petit peu perverse, c'est que c'est en fonction de ces entretiens d'évaluation que la prime de fin d'année est un petit peu distribuée.
Oui.
Donc ça, c'est un petit peu délicat.
Je voudrais revenir sur cette évaluation, parce que finalement... on ne sait pas exactement ce que c'est, qu'est-ce qu'on met derrière l'évaluation. Est-ce que évaluer, est-ce que c'est contrôler?
Voilà.
Et le problème, c'est que bien souvent, on revient encore à cette dimension du chef d'entreprise ou le pouvoir accordé au chef d'entreprise, puisque bon, en droit du travail, qu'est-ce qu'on enseigne? C'est que le chef d'entreprise a un pouvoir de direction, un pouvoir de contrôle et un pouvoir de sanction. Pouvoir de direction, il est libre d'organiser le travail qu'il veut, de définir ce qu'il entend comme fiche de poste, comme mission à accorder aux salariés. Pouvoir de contrôle, mais là encore, on voit que il ne faut plus s'attarder à cette notion de contrôle, mais dépasser cette notion de contrôle pour en faire une évaluation. Là encore, donc, il faudrait réfléchir sur le contenu de cette évaluation. Et puis, la dernière dimension au pouvoir du chef d'entreprise, c'est la sanction. Là encore, bien souvent, on sent que les salariés ont peur de cette épée de Damoclès, de la sanction, de la mise à pied,
oui, alors,
d'un licenciement.
Là, tout va dépendre, franchement, du mode de management et des valeurs éthiques de l'entreprise.
Parce exactement.
Qu'on voit vraiment des entreprises. Et quelque part, le directeur, il a le retour, là. Parce que s'il a une bonne ambiance de travail qui s'est créée, du lien, de la reconnaissance, et puis moi, je dis toujours la considération de la personne humaine, et ben finalement, le retour qu'il a, et ben c'est sa productivité qui est là. Hein. Moi, je dis toujours la productivité, c'est pas les entreprises qui ont le plus d'objectifs, hein, mais c'est ceux qui ont la meilleure qualité de vie au travail, hein, qui ont la meilleure productivité.
Des études très récentes sortent justement sur le lien entre la qualité de vie au travail et la compétitivité
de
l'entreprise.
Mais moi, je n'arrête pas de le dire dans les entreprises que j'ai, mais si vous avez la qualité de vie au travail, la production, vous l'avez. Sauf que parfois, on n'a pas toutes, hein, mais certaines entreprises sont à durcir le relationnel. Et moi, j'ai des salariés qui me disent « Mais attendez, on n'a pas 5 ans. Je pourrais être leur mère. » Et ils me parlent comme ça, vous voyez. Bon, et ça, moi, je l'essaye de le faire remonter. Mais ça, c'est une lutte de tous les jours. Et c'est là que les ressources humaines, moi, je suis désolée, le responsable des ressources humaines, il doit être une fonction transverse, support sur le management.
Au-delà alors, même des ressources humaines, véritablement.
Alors justement, Dominique Desmichel, à propos du job ou de l'œuvre, à propos du sujet ou de l'objet, à propos de la personne humaine ou des ressources humaines, est-ce que vous avez un avis à donner là-dessus, justement? Évidemment, ça peut être des questions d'éthique. Et puis juste après, on aura un extrait à nouveau.
Ben, ce qui me semble, c'est qu'on peut raisonnablement se dire que depuis un certain nombre de décennies, le travail sert de socle anthropologique à un grand nombre de civilisations. Ça, c'est sûr. Alors, je crois que par rapport à l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, il y avait cette question de l'investissement. L'investissement dans le travail, il est très variable suivant les salariés. Pour les gens qui sont non salariés, comme en fait ils gagnent souvent à hauteur de leur travail direct, ils ont une sorte d'intéressement direct, au moins sur le plan financier, qui est plus facilement mesurable. Mais pour les salariés, les dimensions, cette dimension-là extrêmement personnelle est différente. Je crois quand même qu'il y a toujours une dimension extrêmement narcissique, dans le bon sens du terme, du travail. C'est-à-dire qu'il contribue à l'identité de chacun. Alors il le contribue dans une double direction, c'est-à-dire il contribue positivement si le salarié se trouve bien dans son travail et s'il peut lui donner du sens. Mais surtout, il y contribue extrêmement négativement lorsque le salarié a le sentiment que son travail n'a pas de sens. Ou là, le plus narcissique quand ça se passe bien, ça passe tout seul et ça pose pas ce problème. Par contre, le moins narcissique, quand il y a une difficulté au travail, est en général extrêmement, extrêmement délétère. Et je rappelle que la première cause de souffrance au travail, c'est le manque de reconnaissance. Donc on voit bien que cette dimension-là d'amour-propre est tout à fait importante. Alors moi, j'avais envie de revenir à la fin sur la notion d'évaluation, parce que dans évaluation, moi j'entends, je ne suis pas sûr de l'étymologie, peut-être je l'invente un peu, mais tant pis, j'entends ex, c'est-à-dire quelque chose qui doit sortir d'eux, et j'entends le mot valeur. Et du coup, ça rejoint ce que le docteur Roll disait à la fin, c'est-à-dire la question des valeurs éthiques. Hein. Et moi, je sais qu'en côtoyant Véronique Roll, j'ai appris quelque chose qui me semblait tout à fait essentiel, à savoir qu'il faut qu'il y ait une sorte de congruence, de coordination entre les valeurs éthiques du salarié, du travailleur, et les valeurs éthiques de l'entreprise. Je crois qu'il faut qu'il y ait cette association entre les deux. Et du coup, on voit bien là que l'évaluation ne devrait pas être une sorte de contrôle avec objectif, c'est-à-dire on se rappelle là ici que l'idée, ça ne serait pas le progrès de l'entreprise par le biais du progrès des individus, mais ça serait uniquement le profit, hein, c'est-à-dire là quelque chose qui est que de l'objet, purement de l'objet, où en fond on se fout des sujets. Mais cet entretien d'évaluation serait pour essayer de voir s'il y a une correspondance entre le développement humain et puis le développement de l'entreprise. Parce que le développement de l'entreprise, ce n'est pas mauvais en soi, hein, c'est important. Chacun a besoin de travailler dans cette dimension que Dominique Jugiot a rappelée tout à l'heure, la dimension individuelle, la dimension familiale et la dimension collective, on voit bien là que le travail a toute sa place. Et d'ailleurs, pour redire une dernière chose sur quelque chose qui est un petit peu à la mode, où tout le monde parle de la fin du travail, je pense qu'il faut bien différencier que s'il y a peut-être quelque chose qui va se modifier, c'est la fin de l'emploi. C'est possible qu'il y ait une fin de l'emploi dans les formes telles que nous la connaissons. Mais la fin du travail, non, ça n'existe pas. Il y aura toujours des enfants à garder, il y aura toujours des gens à soigner, il y aura toujours des objets à fabriquer, il y aura toujours des routes à construire, etc. Donc le travail, ça ne sera jamais fini. Peut-être qu'il y a des robots qui vont venir faire plein de choses à la place. Donc l'emploi risque de se modifier. Mais le travail, on n'en est pas débarrassé, et probablement tant mieux, puisqu'il y a une dimension identitaire et narcissique, dans le bon sens du terme, dans un engagement professionnel.
Et il y aura toujours des hommes pour créer les robots.
Bah, les difficultés, j'en reviens donc aux urgences de tous les jours, de la non-reconnaissance de chacun professionnellement, notamment au bilan professionnel annuel que peut avoir chaque employé avec son chef, et puis le refus par exemple de la direction d'avoir des bons fonctionnements avec les instances représentatives du personnel, c'est-à-dire le CE, le DP, le CHSCD, et son refus catégorique de recevoir nos questions. Nous en tant qu'élus, on fait notre travail, c'est-à-dire qu'on va voir tout le monde, on récolte des questions qu'on soumet au directeur, et le directeur, lui, non, je ne veux pas tes questions, elles n'existent pas, tes questions. Donc nous, bah, on fonctionne quand même, parce qu'on a été élus, donc on veut nos mandats, et on travaille dans ce sens-là, quoi. Après, il dit non, donc, mais nous, on pose quand même nos affiches, et après, on revient en retour. Bon, ça a peut-être un peu changé, mais en fait, on voit qu'une direction qui ne veut pas avoir un fonctionnement, qui refuse hein, totalement un fonctionnement, démocratique, quoi, ou fidèle à ce que peut être une entreprise dans une république.
Alors, justement, c'est pour revenir à la question du pouvoir, parce que dans ce que vous avez dit les uns les autres, et en particulier Dominique Jugiot, ce que vous disiez de la question de l'exercice du pouvoir en termes juridiques, on peut presque entendre que l'essentiel des relations, en tout cas de celles qui sont structurantes dans une entreprise, relations entre personnes, sont des relations de pouvoir, ou s'articulent autour de quelque chose comme ça. Est-ce que c'est ce que le droit traduit finalement, en parlant des pouvoirs de l'employeur par exemple?
Alors, traditionnellement, on présente bien sûr le monde du travail comme marqué par cette notion de relation de pouvoir. Mais il faut savoir que de plus en plus, et même les évolutions législatives les plus récentes, montrent que face à l'employeur, il existe donc, et ce qui a été dit à travers ce témoignage, c'est qu'il existe donc des instances représentatives du personnel, donc des contre-pouvoirs. Après, c'est très bien d'avoir ces IRP, ces institutions représentatives du personnel. Après, quelle est la relation que veut l'employeur vis-à-vis de ces institutions? Là, c'est une construction, on va dire, empirique. Mais dans un cadre quand même législatif contraint, puisque si l'employeur ne va pas au dialogue avec ses institutions représentatives du personnel, on sait très bien que après il y a des sanctions, et notamment des sanctions pénales, dès lors qu'il il ne met pas en place telle ou telle institution, ou dès lors qu'il il y a un obstacle à l'exercice des missions que la loi reconnaît à telle ou telle institution représentative du personnel. De la même façon encore, j'ai un exemple, puisqu'on parlait tout à l'heure des risques psychosociaux, l'employeur qui ne mettrait pas en place un document, c'est la loi qui le dit, hein, un document unique d'évaluation des risques psychosociaux, eh bien là aussi il y a l'épée de Damoclès, puisque il y a une amende aussi pénale qui est prévue dans, en cas d'absence de ce document. Donc certes, il y a des institutions, bien sûr le législateur n'est pas aussi là pour contraindre l'employeur discuter au jour le jour avec ces institutions, mais il y a quand même aussi à la clé une sanction avec des responsabilités civiles, pénales, administratives y à coller.
Alors après, je voudrais juste revenir sur le document unique. Je pense qu'il ne faut pas présenter le document unique uniquement comme une obligation légale, mais nous, les services de santé au travail, on présente le document unique comme un document important pour connaître les risques dans l'entreprise et les prévenir. Et je pense qu'il vaut mieux aborder ça sur un problème de sécurité plutôt qu'obligation. Parce que après, vous vous retrouvez avec des documents uniques qui ne veulent rien dire du tout, mais le document est là, mais il n'y a rien dedans. Voilà. Donc nous, service de santé au travail, dans notre rôle de conseil de l'employeur et des salariés, ben voilà, moi je vais lui montrer que déjà moi j'ai ma fiche d'entreprise que je dois faire, et je vais lui montrer que sa part à lui c'est le document unique, qu'il faut qu'on travaille ensemble, que je suis là pour le conseiller. Le document unique c'est l'employeur qui le rédige, hein, mais dans le but de connaître ses risques et comment les prévenir et les améliorer. Moi, je crois qu'il faut essayer de sortir de cette obligation légale, mais plutôt de voir ce document unique, il a été créé pour quelque chose, pour une amélioration des conditions de travail.
Dans ce cadre-là, moi, j'avais envie de revenir sur ce que vous disiez, mais ça rejoint un petit peu ça. Et évidemment, avec ma petite casquette spéciale, j'aurais envie de le décaler un tout petit peu. C'est la notion de pouvoir, hein, que vous évoquiez. Parce que j'aime bien utiliser cette expression qui est avoir de l'autorité et faire autorité. C'est pas du tout la même chose. Au fond, avoir de l'autorité, ça veut dire mon pouvoir réside dans ce que je décide. Point. J'ai une fonction et donc ça me reconnaît une sorte de puissance. Tandis que faire autorité, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est pas, j'ai pas besoin de l'autorité institutionnelle qui m'est donnée, mais je fais autorité, c'est-à-dire je viens apporter quelque chose de l'ordre d'un savoir et d'une expérience. Donc je me demandais au fond si dans cette question justement de l'évaluation de l'entretien annuel, il n'y avait pas là quelque chose à changer très profondément pour que justement le contenu même de l'entretien puisse faire autorité en termes de relations entre l'employeur et l'employé. Donc il y a peut-être là quelque chose d'une sorte de révolution dans la perspective, c'est-à-dire on n'est plus là pour travailler sur des objectifs en termes d'objets, mais on est là pour travailler sur une éthique entrepreneuriale et pour essayer de l'évaluer dans le sens, reconnaître de part et d'autre quelles sont les valeurs importantes de l'entreprise.
Oui. Et puis je pense qu'il est important, c'est de travailler ensemble. Et ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, je dirais trop souvent en France, c'est que c'est les uns contre les autres et pas les uns avec les autres. Et les représentants du personnel, ou je pense aux CHSCT, ben, les CHSCT qui fonctionnent bien, c'est les CHSCT qui sont constructifs, on va remonter des problèmes, on les traite. Et effectivement, quand c'est chacun contre, ça ne marche pas. Là, je suis d'accord.
Et donc, vous pensez, docteur Roll, que finalement, le département des ressources humaines est un département, de par sa spécificité tenant à la sensibilité humaine, ce département peut se dégager et peut ne pas être considéré comme juge et partie par rapport aux intérêts de la direction.
Je pense que le service des ressources humaines dans les grandes entreprises, c'est souvent lui qui fait le dialogue social avec les salariés ou les représentants. C'est lui qui est au cœur.
J'entends bien son rôle de médiation, mais dans ce qui a été dit, et surtout sur des enjeux de pouvoir, il y a quelquefois des questions qui tiennent précisément, non pas à de la justice ou à de l'équité, mais à une règle établie, qu'elle soit explicite ou implicite. Or, une règle de pouvoir peut effectivement passer en force. Et du coup, comment se comporte le département des ressources humaines ?
Pour moi, il est médiateur.
C'est pas aussi simple concernant cette notion de médiation ou de médiateur. Parce que bien souvent aussi, le service des ressources humaines est aussi une courroie de transmission entre le chef d'entreprise et les salariés. Donc dire que le service des ressources humaines est un médiateur, c'est pas
lui qui va faire le lien, c'est ça que je veux dire.
Il va faire le lien. Voilà. Après, quel contenu donner au lien? Bien souvent, est-ce que c'est un lien qui va du sommet de la hiérarchie vers le bas, ou est-ce qu'il y a véritablement une interaction assez satisfaisante pour les deux, pour les salariés?
Moi, je connais des entreprises où vraiment le responsable des ressources humaines fait vraiment remonter les questions et a cœur de connaître les problèmes de l'entreprise pour pouvoir les régler. Enfin, savoir les questions qui remontent des instances représentatives. Mais ce n'est pas partout pareil.
Voilà, exactement. Il y a des exemples, des contre-exemples.
Voilà. Mais
c'est quelle éthique on donne aussi à cette ressource humaine.
Voilà, on est en train de terminer ce premier volet de l'émission sur la souffrance au travail. Et vous voyez que même si elle a matière à se dissiper, elle a aussi une raison possible ou des raisons de pouvoir exister. Et je vous convie sur Radio Grand Ciel au prochain volet de cette émission que j'espère vous serez nombreux à suivre. Bonne journée à vous.
Radio Grand Ciel.